Alors je propose qu'on aille justement sur un territoire et qui est celui du parc naturel régional des Grands Causses, donc avec Laurent Danneville, puisque la technique est résolue.
Oui, bonjour à tous et toutes. Donc Laurent Danneville, je suis directeur adjoint du parc naturel régional des Grands Causses, et je suis également hydrogeologue de formation. Et également hydrogéologue agréé dans quelques départements. Donc l'hydroagréé, en fait, il répond aux services de l'État et aux agences régionales de santé pour essayer de proposer des périmètres de protection pour essayer de préserver au mieux, en quantité et qualité, les ressources captées. Donc voilà, donc un petit retour d'expérience sur ce qui a été fait au niveau du parc, mais surtout au niveau peut-être de l'ancienne région Midi-Pyrénées, puisqu'on avait travaillé avec différents partenaires sur un guide que je vais évoquer en fin de présentation. Donc là, je vais vous présenter le parc très rapidement, la forêt sur le parc, l'eau sur le parc, et puis ensuite des éléments sur la bonne gestion de la forêt, qui est située dans les bassins d'alimentation de sources captées, donc on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis après, l'utilisation du guide rapidement pour montrer de quelle façon on l'a utilisé et de quelle façon il pourrait être encore utilisé sur le territoire, sachant que ce guide, il a été entre guillemets, repris au niveau national, et Julien Ficoperon en parlera tout à l'heure par rapport à cette bonne gestion. Alors au niveau de la présentation du parc, c'est moi qui passe les... Non, je ne suis pas... D'accord. Alors, je veux bien la diapositive suivante. Donc au niveau du... Oui, la suivante. Voilà. Donc le parc des Grands Causses, on est situé dans l'ex-région Midi-Pyrénées, dans le département de l'Aveyron, même si dans peu de temps, on va s'agrandir dans la partie Héraultaise, sans doute à la fin de l'année, avec la nouvelle charte. C'est 68 000 habitants à peu près, hein, 93 communes. Une charte pour 15 ans, voilà, hein, c'est les documents d'objectifs du parc. Alors, je vous ai mis également à côté. Alors, on est parti trop vite, il faudrait revenir sur la. Voilà. Je vous ai mis également la cartographie au niveau national des parcs naturels régionaux, c'est tout ce qui est en vert. Donc, voilà, on fait partie de la famille des parcs naturels régionaux. Il y en a 58 en France, il y a des parcs nationaux.
Je pense que tout le monde connaît.
Tout le monde connaît. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, c'était simplement pour présenter. Alors, diapositive suivante. Voilà, donc au niveau du parc, on a, grâce à l'ONF, on a réussi à avoir une vision un peu plus globale. Donc, sur le territoire, c'est 41% de la superficie qui est concernée par la forêt, avec principalement de forêts de feuillus, à peu près à 60%. Au niveau d'accroissement, c'est 40 millions de mètres cubes par an, avec des prélèvements de 145 millions, vous voyez, de mètres cubes, surtout des résineux. Diapositive suivante. Alors au niveau de l'eau, donc quelques éléments. Alors sur le territoire du parc, c'est un territoire principalement karstique, donc principalement calcaire à 65%. Et donc grâce aux études hydrologiques qu'on a menées sur le territoire, on a pu chiffrer ces réserves à plusieurs millions de mètres cubes, donc c'est quand même important. Alors un chiffre plus précis même, c'est 250 millions de mètres cubes de réserves sur notre territoire. En année moyenne. Donc grâce à ces études, on a pu déterminer aussi les bassins d'alimentation des sources. Alors là, c'est, par exemple, c'est l'étude du Larzac qui nous a permis de déterminer l'ensemble des bassins d'alimentation qui sont concernés. Il y a une dizaine de sources, vous voyez. Là, j'ai mis l'autoroute à 75. Donc ces études, elles nous permettent de déterminer les bassins d'alimentation de toutes les sources qui sont captées ou pas, privées ou publiques. À droite en haut ici, j'ai mis une carte également qui concerne également les zones qui sont captées, c'est tout ce qui est en bleu sur le territoire, donc vous voyez, il y a des grandes zones qui sont captées, avec également les périmètres de protection qui ont été mis en place ou qui sont en cours. En bas ici à droite, c'est un schéma du karst, c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement sur notre territoire. En général, les eaux les précipitations s'infiltrent sur les causses. Il n'y a pas de rivière, nous, superficielle, à part dans les gorges. Les eaux s'infiltrent et vont alimenter des réserves souterraines importantes, là, qu'on a figurées ici, qui sont chiffrées donc à plusieurs millions de mètres cubes, puisque je vous dis 250 millions de mètres cubes sur le territoire du parc. Alors, on peut aller à la diapositive suivante. Alors, voilà. Donc voilà, c'est pour vous indiquer les principaux aquifères aussi qu'on peut avoir sur le territoire. Alors nous, c'est principalement karstique, mais on a d'autres aquifères. De toute façon, c'est pareil au niveau national. C'est les principaux aquifères qu'on peut avoir, des aquifères poreux, donc surtout en nappe alluviale, des aquifères fissurés, bon, en zone schisteuse, granitique. On peut aussi avoir les aquifères poreux fissurés, c'est un petit mélange entre guillemets entre les deux. Et puis des aquifères karstiques où là, des circulations sont plus rapides et c'est un peu plus complexe. Voilà, diapositive suivante. Alors en termes de quantité, bien sûr, les débits des sources, on en a parlé, va dépendre de la superficie des bassins d'alimentation, de la nature de l'aquifère, comme j'ai montré tout à l'heure, de la perméabilité des formations géologiques et des formations superficielles, qui ont aussi toujours un rôle important dans la régulation et la filtration. Diapositive suivante. Alors on en a parlé tout à l'heure, j'ai repris quelques éléments de mes collègues sur des consommations au niveau des arbres. Là j'ai mis un hectare de hêtre peut consommer 3 500 m3 d'eau par an et 800 m3 par mois d'été. Alors c'est pour une forêt entre guillemets au niveau continental, c'est des éléments de bibliographie que j'ai retirés de l'ONF, hein, ça peut être prêté à discussion. J'ai mis des éléments aussi sur les chênes et les épicéas. Ce qu'il faut peut-être nous retenir, c'est qu'on, par retour d'expérience, c'est qu'on a vu qu'on avait en effet, comme le disait aussi Monsieur Lachassane, c'est pour des petits bassins d'alimentation de quelques hectares, le fait de replanter ou le fait que la forêt voilà, s'étende un peu plus, on s'est aperçu qu'il y avait quelques sources qui avaient des diminutions de débit, voire qui pouvaient tarir, hein, on l'a vu dans le département du Tarn. Donc c'est vrai que sur des petits bassins versants, le fait qu'il y ait une forêt importante, ça peut jouer en effet sur des petites sources de quelques des bassins de quelques hectares. Alors on a fait le calcul aussi sur le territoire du parc pour une estimation de la consommation qu'on pourrait avoir par rapport aux 126 000 hectares que je vous ai indiqué. Donc on aurait une consommation de 544 millions de mètres cubes. Donc pour comparer aux 250 millions de mètres cubes, je dis, de réserves souterraines, vous voyez, c'est un chiffre quand même qui est important. On peut passer à la diapositive suivante. Alors là, ça va concerner donc la bonne gestion de la forêt située dans les bassins d'alimentation. Donc on avait travaillé dessus avec différents partenaires. Alors, diapositive suivante. Alors, cette bonne gestion nécessite un peu de recul. Voilà. Ça nécessite une bonne gestion, une bonne connaissance du territoire et de son hydrogéologie, bien sûr. Alors, il y a des territoires qui sont plus ou moins connus. C'est important d'avoir, en effet, des études hydrologiques qui permettent de connaître ces bassins d'alimentation et de voir justement où sont plantées nos forêts. Ensuite, de connaître la localisation et les types de captage présents. Hein, alors, c'est des données qu'on peut récupérer auprès de l'ARES ou auprès d'autres partenaires. La présence ou l'absence de périmètre de protection également, ça c'est important. Et la connaissance des risques. Alors les principaux risques qu'on avait relevés, c'était l'augmentation de la turbidité, le risque de pollution par hydrocarbures lorsqu'il y a des travaux, et le risque de pollution par produits phytosanitaires. Alors, on a évoqué aussi les nitrates tout à l'heure aussi, lorsqu'il y a un défrichement. Bon, on l'a pas pris en compte dans le guide, mais c'est les principaux éléments qui nous paraissaient importants. Et puis les activités qui sont susceptibles d'impacter la qualité de l'eau, on avait vu plusieurs thématiques. La desserte, la coupe, l'exploitation, la plantation, la santé des forêts et le défrichement. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Un petit rappel, bon, mais ça reste assez rapide sur les périmètres d'action parce que vous connaissez aussi, mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a un périmètre de protection immédiat qui est mis autour du captage, hein, qui va protéger, empêcher la détérioration des ouvrages et les infiltrations de substances polluantes. Et ensuite, on a le périmètre rapproché, qui est un peu plus grand, qui fait en général, il est aux 200 mètres au-delà du périmètre immédiat, qui va protéger efficacement aussi de toute migration de polluants. Et puis en général aussi, on a un périmètre de protection éloigné, alors, voilà, tout est passé d'un coup, qui va protéger en général l'ensemble du bassin d'alimentation de la source. Alors ces éléments sont importants, en effet, pour la protection des ressources. C'est vrai que sur le territoire national, l'ensemble des périmètres ne sont pas encore terminé, il y a des régions qui sont plus avancées que d'autres, mais une fois qu'on a ces éléments, c'est important justement lorsqu'on a des travaux forestiers d'intégrer ces types de périmètres et les préconisations qui sont indiquées dans les arrêtés de périmètres. Alors on peut passer à la diapositive suivante. Alors le guide Gestofort, donc c'est vous pouvez aussi passer la diapo. C'est un guide là qu'on a réalisé avec les partenaires en 2011, ça fait une petite dizaine d'années, avec le CRPF, l'ONF, l'IDF. C'était donc encourager une gestion forestière préservant une qualité de l'eau captée. Et on avait travaillé sur l'ex-région Midi-Pyrénées. Et c'était avoir aussi une meilleure compréhension entre acteurs de l'eau et forestiers. Diapositive suivante. Alors ce guide, bon, je vais pas aller dans le détail, mais pour l'utiliser, ben, il faut quand même connaître en effet dans quel contexte on est situé lorsqu'il y a des travaux forestiers. Donc savoir si on est dans un contexte plutôt alluvionnaire, de karst ou de schiste, granit et gneiss, ou carrément aussi de prise d'eau en rivière. Donc j'ai illustré aussi ce schéma, voilà, avec les principaux captages qu'on peut trouver nous en Midi-Pyrénées. Ex-Midi-Pyrénées, c'est des captages de sources, vous voyez, donc en général avec un drain, un captage avec un bassin de décantation, un bassin de prise, voilà, et puis après ça va au réservoir. On peut aussi avoir des forages ou des puits, hein, sur le territoire. Et puis des prises d'eau aussi en rivière, notamment en milieu montagneux, on a directement des fois des prises d'eau en cours d'eau. Donc le guide, ben, suivant le contexte, on regarde le contexte, et puis par rapport à ça, on va sur les pages concernées, page suivante. Et donc on a mis en place en fait quelques fiches de terrain. Donc la première fiche ici, ça concerne plutôt le contexte de source en milieu granitique et schisteux. Ici c'est plutôt au niveau alluvionnaire. Donc on définit par défaut, alors le captage est ici, on définit rapidement un bassin d'alimentation de quelques hectares, c'est un peu 90% des cas, c'est à peu près les surfaces qu'on a sur le territoire, avec une distance de 75 mètres qui nous paraissait importante par rapport à la sensibilité, une de 200 mètres et 400 mètres pour l'ensemble du bassin. On prend aussi en compte les pentes et on réalise un diagramme de sensibilité avec en abscisse les pentes et en ordonnée la distance au captage. Et suivant où on est situé, ben on a une sensibilité qui va de très forte à très faible. Vous voyez, c'est les couleurs qui sont ici. Donc là, en contexte de source, c'est ce type de fiche. En contexte alluvionnaire, bon là, c'est un peu différent. Là, le captage en général est ici, hein, le puits ou le forage. On a défini 75 mètres autour du captage et puis également 250 mètres en amont et 100 mètres en aval. Voilà. Et puis un diagramme de sensibilité qui est un peu différent. Diapositive suivante. Alors, en contexte de prise en cours d'eau, c'est un peu différent. Là, le captage est ici, on a le cours d'eau qui est ici. On a pris une bande, la répicile, s'il y a une répicile qui peut exister, une bande de 5 mètres. Et puis 50 mètres au-delà des répicilles. Et puis on a aussi défini un diagramme de sensibilité, voilà, de ce type. Et pour terminer, en milieu carcique, alors en milieu carcique, c'est plus compliqué parce qu'on a des bassins qui sont beaucoup plus étendus en superficie. On peut aussi avoir des rivières qui se perdent en amont. Donc c'est des contextes un peu particuliers. Donc suivant où on est situé, en fait, on va intégrer et on va prendre en compte les fiches de terrain que j'ai exposées juste en amont. Diapositive suivante. Donc voilà, donc suivant, lorsqu'il y a des travaux forestiers, là c'est pour illustrer, ben suivant, là on a repris un exemple d'un captage de source, suivant on va faire les travaux, ben on définit la sensibilité, alors ici par exemple on sera plutôt en sensibilité très faible, et ici en sensibilité voilà, moyenne, en orange. Donc à partir de là, on a défini en fait dans le guide, diapositive suivante, des éléments qui concernent donc les thématiques d'intervention. Donc qui concerne la desserte, la coupe, l'exploitation, la plantation, la santé des forêts, le défrichement. Et à partir de là, on a pris en compte tous les risques possibles, donc turbidité, hydrocarbures, produits phytosanitaires, bactéries aussi. Et à partir de là, et par rapport au niveau de sensibilité qui ont été définis auparavant, il y a des libellés de recommandations qui sont proposés, qui apparaissent ici, hein, avec différents libellés de recommandations, soit indispensables, soit conseillés, soit envisageables. Et puis il y a des éléments également sur les aspects financiers suivant les coûts d'intervention. Diapositive suivante. Alors là, ça va être pour illustrer simplement le guide. Là, j'ai pris la desserte. Donc il y a différentes sous-thématiques aussi qui sont concernées. La création de routes, la rénovation de routes, la fréquentation des routes. Voilà, on peut passer. Diapositive suivante. Après, il y a le thème de l'exploitation avec également des sous-thèmes. On peut passer encore. Les plantations, la santé des forêts, les défrichements. Voilà, donc sur ça, je sous-thème, en fin de compte, et par rapport à la sensibilité, le forestier, il peut regarder de quelle façon il va adapter ses travaux sur chaque site et dans chaque contexte. Alors, pour terminer, quelques exemples voilà, de techniques qu'on avait proposées dans le guide, des bidons double cuve par rapport, bien sûr, aux huiles hydrocarbures, des kits d'urgence, par rapport à la turbidité, la mise en place de revers d'eau au niveau des chemins forestiers. Diapositive suivante. Ensuite, par rapport au franchissement de cours d'eau, ben voilà, faire attention et la mise en place de rondins de bois ou de tubes pour éviter les problèmes de turbidité. Et puis, s'il le faut, ben, la mise en place de bailles de paille, vous voyez, c'est la photo d'en bas, qui évite des fortes turbidités en aval, notamment s'il y a une prise d'eau qui est située juste à proximité. Voilà, diapositive suivante. Alors, donc, tous ces éléments sont tirés donc du premier guide que j'ai remis ici, qui avait été élaboré donc par l'ONEF, le CRPF, l'IDF. Et là, je tiens aussi à rendre hommage également à Philippe Bertrand, qui nous a quittés il y a peu de temps, qui avait participé et qui avait engagé ce guide en 2009 même, parce qu'il a terminé en 2011. Et puis, au niveau national, bon, une partie de ces éléments ont été repris. Et Julia nous en parlera cet après-midi avec d'autres thématiques. Et donc, au niveau national, il y a ce guide, la protéger, valoriser l'eau forestière. Diapositive suivante. Donc, c'est ma dernière diapo. C'était pour faire aussi un petit focus sur l'aspect aussi qualité. L'année dernière, on a subi, entre guillemets, de deux incendies importants sur le territoire du parc. Donc, sur la commune principalement de Mosfiejous. Donc, on travaille là sur le diagnostic post-incendie. On pense élaborer un plan de massif prochainement. Il y a les OLD aussi qui sont aussi un sujet, parce qu'on avait trois communes qui étaient concernées, maintenant on en a 70, donc pour les élus c'est quand même un gros travail. Et on essaie de regarder aussi au niveau qualité, parce que ces feux de forêt ont lieu aussi sur des bassins d'alimentation de sources captées. Et donc on est en train de mettre en place un suivi de la qualité de ces eaux par rapport au changement entre guillemets au niveau du sol, hein. Il y a des éléments qu'on souhaiterait surveiller, les éléments majeurs, les phosphates, les nitrates, et également d'autres produits, d'autres éléments qui sont liés peut-être aux retardants qui ont été utilisés, et voir les PFAS, puisqu'on travaille aussi avec des chercheurs de Clermont-Ferrand qui s'interrogent aussi sur les substances polies ou perfluorées alkylées, donc c'est les polluants éternels, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc on essaie de regarder, parce que ça peut aussi avoir quelques incidences. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Merci de votre attention. Voilà un petit exposé rapide sur un petit retour d'expérience sur le territoire.
Merci Laurent de cette respiration territoriale après ces grandes notions que l'on avait évoquées. Se retrouver sur le concret, sur le terrain, c'était tout à fait utile. Il me vient évidemment une question. Ce guide qui a été établi en 2011, quelle suite a-t-il reçu? Je veux dire, est-ce que les gestionnaires forestiers, les propriétaires forestiers s'en sont saisis? Est-ce que face aux surcoûts qui vont certainement apparaître pour la mise en œuvre de ces précautions que vous avez préconisées, le parc apporte un appui? Quel est votre rôle dans le suivi de ce travail?
Alors c'est sûr qu'on en a parlé avec quelques partenaires. C'est vrai que ce guide mériterait d'être davantage promu, entre guillemets, et sensibiliser les acteurs. Nous, sur le territoire du parc, on essaie de l'utiliser. Moi, en tant qu'hydrogeologue agréé dans différents départements, je l'utilise également. Mes collègues, peut-être pas suffisamment. Donc c'est vrai qu'avec Patrick Lachassène, on pourrait en discuter, parce que comme il est président du comité français d'hydrogéologie, ça serait peut-être intéressant de pouvoir aussi faire peut-être une formation ou en discuter avec nos collègues. Au niveau forestier, je pense que c'est pareil. Il y a quelques techniciens qui l'utilisent. On a un technicien CRPF qui est au niveau du parc, donc il connaît, mais je pense que la plupart des forestiers ne connaissent pas forcément ceux ou ces guides. Hein, ce n'est pas parole d'évangile, mais c'est quand même intéressant de pouvoir les utiliser. Donc c'est vrai que ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place, qui n'a pas été mis en place par rapport à la suite de à la mise en place de ces guides. Il y a cette formation qui nécessiterait, à mon avis, un développement national.
Le parc n'a pas assuré un véritable service après-vente, si j'ose parler comme ça?
Un petit peu, mais pas suffisamment. Voilà. Bon. Et alors, c'est vrai qu'on est, nous, on a un territoire réduit par rapport à l'Expédie-Pyrénées. Vous voyez, il y a plusieurs départements. Donc, voilà, il y aurait peut-être quelque chose, même peut-être au niveau de la Fédération des parcs aussi, il faudrait voir. À mon avis, il y a des choses à mettre en place. Hein, parce que je ne sais pas si autour de la table, il y en avait beaucoup qui connaissaient ces guides, mais voilà, ils sont en place depuis 10 à 10 ans.
Ok, on y reviendra, évidemment. Et je ne doute pas que Julien Fiquepron nous fera un bilan formidable sur l'utilisation du guide au niveau national, mais n'anticipons pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir à cet exposé très, très contextuel? Patrick, vous voulez ajouter quelque chose? Ce sont des territoires que vous connaissez, évidemment.
Alors, non, je n'ai rien de particulier à ajouter.
D'accord.
L'exposé était très.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, on est sur un guide de mise en œuvre de travaux forestiers avec l'objectif de protéger les eaux captées, de ne pas faire de bêtises, de pollution, enfin toute action qui aurait un impact négatif. On n'est pas dans une approche proactive, je dirais, de gestion forestière dans un objectif d'optimisation, comme c'était dit tout à l'heure. Vous n'aviez pas regardé encore cet aspect-là.
Tout à fait.
Ça reste à faire.
Ça
Il
reste à
faut
faire,
qu'on ait
tout à
des
fait.
choses à faire encore.
Exactement.
OK, très bien.
Très bien.
Merci
Avec
beaucoup.
plaisir.
Donc maintenant, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus conceptuel avec Jean-Marc Limousin.